maîtrise. J'enlève ma culotte et puis j'improvise. Et je gagne ma coupe si vous avalez votre cise. Où je fais du striptease. Strip, strip,
striptease.
Strip, strip,
striptease.
Oh, strip, strip,
striptease.
Eh bien, voilà, j'étais entre la régie et le studio, ça arrive souvent. Je suis un peu nomade, donc il est 14h moins 2 minutes, et Jean-Paul voulait citer un nom important.
Dire que l'auteur principal de la chanson de l'écluse, c'est Laurent Carmé, mais que son co-auteur, c'est Marc Chevalier, qui a été co-fondateur et co-directeur de l'écluse. Et le livre comprend ce qui a été cité au début de cette émission, c'est-à-dire des entretiens avec Marc Chevalier, qui, d'une certaine façon, commente tout ce que raconte Laurent Carmé.
Laurent Carmé, que j'ai rencontré, j'ai fait sa connaissance il n'y a pas très, très longtemps, au concert de Michel Bernard. Michel Bernard, que nous embrassons. Laurent Carmé, eh bien, comme il court beaucoup, je lui cours après, et nous allons peut-être l'avoir ici, dans le studio, pour parler de ce livre qui est une mine d'or. Voilà. Eh bien voilà, que nous reste-t-il ? Il nous reste 2 minutes. Alors, 2 minutes d'antenne. Eh bien, ça y est, on peut envoyer
le générique.
Le générique de fin. Merci à toi, Ariel. Et je vous dis, chers auditeurs, au 11 janvier, avec, c'est en cours de programmation, mais à bientôt.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches. Plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre. Et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre.
Terrible, cruel, captivant.
Bonjour à tous, je m'appelle Sonia et j'interviens aujourd'hui en tant qu'élève ayant pratiqué Radio Cartable. Je suis la plus jeune des invités autour de la table et pourtant j'ai tout de même plus de 40 ans. À quelques années près, j'aurais pu souffler les 40 bougies avec Radio Cartable.
Eh bien, c'est parce que Radio Cartable était à la maternité, quand toi, tu étais à la maternelle, et les parents de Radio Cartable qui l'ont conçu, les nounous qui l'ont aidé à grandir, pour la plupart, sont trentenaires, voire plus. Alors, il faut ajouter 40 ans en plus. Hein? Voilà pourquoi tu es là avec des anciens.
Nous sommes donc 6 autour de cette table. Je laisse le soin aux autres invités de se présenter.
Alors, je me présente, je suis Jean-Pierre Merlot, je suis un ex-parent de l'école Einstein. J'ai travaillé sur l'école Einstein avec Jean Renaudy, dans les années 80. Et à l'époque, j'étais directeur adjoint de l'OPHLM. Et donc, comment je vous raconterai ma part discrète dans l'aventure de la création de Radio Cartable.
Bonjour, alors moi je suis Danielle Pasquier, j'ai 73 ans, j'étais institutrice pendant très longtemps et j'ai été personne ressource Radio Cartable durant un an. Et j'ai toujours aimé Radio Cartable.
Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Boyer, je suis retraitée depuis une dizaine d'années et je travaillais en tant que conseillère pédagogique à l'inspection d'Ivry. Donc Radio Cartable, je la connais depuis sa naissance jusqu'à maintenant et j'essaierai de vous donner quelques renseignements sur ce qui s'est passé avec cet outil innovant.
Oui, bonjour, je suis Yolande Sicarelli, j'ai été enseignante dans cette école, Maurice Thorez. Ensuite j'étais directrice, j'ai aussi pris ma retraite. Ah, j'ai 71, 72, ouh là là, j'ai vu grandir à Le Cartable, je l'ai accompagnée. Et donc là, depuis, je suis aussi trésorière de l'association Aradel. Monsieur Berlot vous en parlera longuement plus tard.
Yolande, dis-moi, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui ?
Eh bien, le récent décès d'Annie Le Treuilly, qui était IEN, c'est-à-dire inspectrice de l'éducation nationale sur Ivry, est survenu en pleine réflexion sur nos 40 ans à fêter bientôt en février 2024. Et c'est grâce à elle si Radio Cartable existe. Pour la retrouver de nouveau, on a remonté ces 40 ans jusqu'au premier pas de la radio, en se remémorant sa première décennie. Madame Le Treuilly a été notre première pionnière à De Cartable. Elle a œuvré en compagnie d'autres pionniers à cette époque cruciale de la mise en place de la radio. Il y a eu Pierre Laborie, il y a eu Philippe Colomines, on parlera d'eux dans cette émission. Il y a eu aussi Éric Bayou qui a œuvré dans cette radio dans les premières années. Et puis certains autres ont repris le flambeau pour les décennies suivantes, notamment M. Charbonnier, dont on parlera sûrement dans une seconde émission. Jean-Claude Medville, Monique Malvergne, qui ne sont pas là parce qu'ils ont quitté la région parisienne. Alors, on leur fait un grand coucou et un merci.
Monsieur Merlot, Yolande vous a présenté comme pionnier de Radio Cartable. Quel rôle avez-vous joué à l'origine de notre radio ?
Alors, je travaillais sur le projet de l'école Einstein et on avait, avec Pierre Laborie et puis le groupe français d'éducation nouvelle, le GFEN, réfléchi sur le statut de l'école ouverte qui a été approuvé par l'éducation nationale avec un appui très fort d'Annie Le Treuilly dès le départ. Je me souviens d'une séance avec Annie Le Treuilly, avec des représentants de la municipalité, les enseignants qui avaient été nommés 6 mois avant l'ouverture de l'école pour réfléchir au projet d'école. À l'occasion de cette réunion qui était la conclusion en fait de tout un ensemble de réunions de travail des enseignants et de l'inspectrice, la réunion allait se terminer et j'ai levé modestement la main en disant « Est-ce qu'une radio scolaire est envisageable, a du sens dans un projet comme celui de l'école Einstein ?» Alors, ce que j'ai vu sur les visages, c'est un enthousiasme débordant des enseignants, de Pierre Laborie, d'Annie Le Treuilly, etc. Mais elle, en tant qu'inspectrice, elle était consciente des difficultés pour mettre en place un équipement de cette nature. D'autant qu'à l'époque, on était dans un contexte où les radios libres étaient interdites. Il y avait des discussions entre l'État et puis les militants qui développaient des radios libres de façon illégale. Mais très rapidement, les radios libres ont été légalisées. L'État a attribué des fréquences aux radios. À l'issue de cette réunion, Annie Le Treuilly se retourne vers moi. J'étais avec un ami qui était architecte chez Jean Renaudy. Elle me dit, mais d'accord, mais comment on peut faire ? On n'a pas de sous. Et donc, avec cet ami architecte, on leur a dit, on allait voir, on allait explorer, on va voir comment on peut essayer de trouver une solution. Et le week-end, c'était un vendredi, cette réunion, je me souviens très bien, le week-end avec Hugues Marcoussi, on a pris l'initiative de créer une association, parce qu'en fait, une parente d'élève, Marjolaine Price, elle était responsable de la communication dans une très grosse mutuelle implantée à Angers. Et donc, je parle avec Marjolaine, je lui dis, écoute, on a besoin d'être dessous, etc., pour un projet de radio. Elle me dit, écoute, c'est parfait, ça entre complètement dans la politique de la mutuelle. Tu me montes un dossier. Donc pendant le week-end, avec Hugues Marcoussi, on a créé l'association Aradel. On a trouvé le nom de Radio Cartable. On a élaboré un budget et une fiche technique de matériel à acheter. Et donc, en gros, de mémoire, c'était l'équivalent aujourd'hui de 10 000 euros d'investissement. Et donc, on a remis le dossier à Marjolaine Price, qui en a parlé à son directeur général. Et 10 jours après, on a reçu un chèque de 10 000 euros. Et avec Hugues Marcoussi, nous sommes allés à rue Montgallet, là où il y a toute l'informatique, etc. Et on a fait nos courses.
Marché, quoi.
On a fait notre marché et on est revenu. Alors je ne sais plus où on avait mis ça, mais je pense que c'était à l'école Einstein qui était déjà terminée. Et donc on a entreposé tout le matériel qui permet d'avoir un studio opérationnel. Et puis nous, on s'est retirés. Après, c'était entre les mains d'Annie Lotroïc, des enseignants, et puis savoir comment cette radio pouvait fonctionner. Initialement, elle était prévue pour l'école Einstein. Et ce que je trouve très très bien, c'est que c'est la radio de toutes les écoles d'Ivry. Voilà.
En quelle année, là, on est?
Et là, on est en 82.
Tout à fait. Et Aradel, ça voulait dire quoi, au départ? Les amis de la radio, de l'école... Einstein.
Oui, c'est ça. Ah, oui,
voilà.
C'est ça. Oui,
et donc après, ça s'est terminé. C'est devenu les amis de la radio
des écoles,
de l'école. Là, on est en 84.
Donc, si M. Merlot a été l'un des pères de Radio Cartable, Mme Lotroïc en a été la mère. Marie-Claude, quelques mots à ce sujet?
Eh bien, écoute, je vais peut-être redémarrer de ce que vient de dire M. Merlot. Mme Lotroïc a été enchantée, emballée par le projet. Mais elle tenait beaucoup à ce que ça soit toutes les écoles d'Ivry et pas seulement l'école Einstein. Et elle nous disait à l'inspection, « Ah non, s'ils veulent pas, il n'y aura pas le projet. » Mais bien sûr, tout le monde était favorable et le projet est donc né. Et il y a eu un concours pour trouver le nom, même si le nom était peut-être déjà donné, mais il fallait impliquer les enfants. Et alors là, ils ont réfléchi beaucoup. Et en fin de compte, on est revenu à quelque chose de très simple, Radio Cartable, parce que ça semblait le plus facile. Et il y a eu aussi un concours de dessin pour trouver le logo. Et alors là aussi, les classes ont répondu vraiment... très, très massivement. Et en fin de compte, c'est quand même un adulte qui a fait le dessin, mais en tenant compte des idées des enfants, des propositions. Parce que les dessins des enfants étaient trop compliqués pour un logo. Donc ça a démarré. Il y a eu beaucoup d'enseignants enthousiastes et qui n'hésitaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'aide. Fallait travailler dans sa classe, tout seul. Fallait monter l'émission. Et à l'époque, c'était quelque chose de terrible, puisque c'était sur bande, une heure de montage pour une minute d'émission. Donc, ils y ont passé des mercredis, ou peut-être des jeudis, je ne me souviens plus. Mais
c'était mercredi. En compagnie de ?
De M. Laborie, qui était toujours présent et qui menait tout le monde...
Tambour battant.
Mais c'était efficace. Et il y avait surtout un enthousiasme collectif qui était vraiment remarquable. Et alors, Madame Lotroïc, de son côté, quelquefois tremblait dans le bureau en disant « Oh là là, ils prennent tel sujet, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Que vont dire les enfants? C'est pas possible. Je sais pas si je vais écouter. » Bon, mais tout s'est toujours très bien passé. Mais elle, de son côté, elle suivait attentivement et assidûment les émissions. Et alors au début, si je me souviens bien, ça passait le matin, tous les matins, un quart d'heure. On a très vite abandonné, c'était pas possible. Ensuite, c'était le matin.
Et le midi.
Et c'était pas non plus favorable. Et enfin, on est arrivé à l'après-midi, 14h-15h. Et là, beaucoup de classes écoutaient, beaucoup de classes produisaient. C'était assez étonnant, je dirais. Et les enfants participait, mais très sérieusement. Comme c'était quelque chose, il y avait des vrais auditeurs qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient vraiment le sentiment qu'il fallait faire quelque chose de correct, qu'on ne pouvait pas se permettre n'importe quoi. Et ça a été moteur dans beaucoup de classes.
Et moi, j'ajouterais l'autre dimension que les élèves ont très vite compris, c'était le vivre ensemble. C'est-à-dire, j'appartenais à une communauté ivrienne scolaire, je produisais pour eux, je les écoutais, et il y avait cet échange-là. Ce vivre ensemble, c'est presque, je le mettrais en numéro un, même avant l'apprentissage de la langue française. Parce que la langue française, on peut l'apprendre autrement. Là, on a un outil pour de vrai. Hein, donc il y a la langue française, l'oral qui va vers l'écrit, l'écrit qui revient vers l'oral, un oral spécifique d'ardophonique, hein. Mais le vivre ensemble, pour moi, c'est essentiel, hein, voilà. Bon.
Et moi j'ajouterais aussi qu'il y avait la dimension que c'était entendu par tous les auditeurs, pas simplement les enfants des écoles d'Ivry, mais aussi d'une façon tout à fait générale sur l'île de France. Et les parents, les grands-parents pouvaient entendre, et ça donnait à la fois une crédibilité au travail scolaire et aussi, dans l'autre sens, une implication des enfants vers l'ensemble de la société de faire le travail d'une façon responsable, sérieuse, de faire ça, mais bien.
Ah oui, c'était important. C'était pas un exercice scolaire.
Mais à ce propos, comment est-ce que quelqu'un peut expliquer comment se sont menées les négociations avec des radios existantes pour avoir une diffusion? Parce que le travail scolaire autour de la radio, c'est une chose, et après la diffusion, c'est une autre chose, parce que la radio cartable ne disposait pas des droits, des autorisations pour pouvoir diffuser.
Alors là, moi, je ne sais pas.
Au départ, on a fait une demande pour avoir, au temps de l'explosion des radios libres, on a fait une demande pour avoir notre antenne FM. Bon, là, certains disent, mais attends, on ne pourra jamais tenir une semaine. Certains disent, c'est pas grave, certains moments, on mettra des chansons, etc. Bon, bref, bon, on voyait, heureusement qu'on nous a refusé, parce qu'on n'aurait pas été capable, dans cette période-là, d'arroser une semaine entière d'émissions. Alors, on a démarché, on ne peut pas vous dire. Donc, ça a été d'abord Radio Soleil, 94, dont les studios étaient à Villejuif. Moi, je dirais en 84, première année, avec des créneaux du matin, justement. Donc, Radio Soleil 94 a pillé les Gaules, a été remplacée par TSF Soleil. Donc, on a dû travailler avec elle, moi, je dirais 86-87, hein, à un an près, voilà. Et puis, donc, TSF Soleil, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, elle nous a ou abandonné, ou peut-être aussi elle a pillé les Gaules. Je ne sais pas si ça existe encore,
non,
TSF.
Ça existe toujours.
Ça existe.
Jazz,
mais TSF Soleil.
Ah non,
c'était TSF Soleil, hein, qui avait pris les.
C'est la fin des radios libres.
Radio Soleil. Voilà. Et donc, en gros, 88, Radio Libertaire, je dirais, avec un créneau le jeudi de 14h à 15h.
Je vous interromps parce que Bruno est arrivé.
Bonjour Bruno. Et moi, j'aurais voulu rajouter quand même juste une chose. En fait, il y avait un reportophone, c'est-à-dire, la plupart du temps, il y avait un enseignant. Pierre Laborie, Philippe Colomine ou l'enseignant ressource, qui étions dans le studio et grâce à un reportophone, on se mettait en contact avec la radio, soit Radio Libertaire par exemple, qui nous cédait l'antenne pendant un an.
Bonjour. Bruno Le Goff, j'étais élève ici. Et maintenant, je travaille à la ville en tant que sonorisateur.
D'accord. Et entre les deux ? Entre le petit Bruno qui a grandi et puis maintenant le grand qu'on voit maintenant, à Le Cartable ?
Ah bah, pendant combien de temps ? Pendant un an et demi à peu près.
D'accord.
Ouais.
Avant de continuer, on va faire un point sur notre enquête. Maintenant, on connaît certains parents de Radio Cartable. Il y a donc Monsieur Pierre Laborie. Il y a aussi Madame Lotroïc et des parents d'élèves de l'école Einstein.
Est-ce que les journalistes de Radio Cartable ont retrouvé ces personnes ?
On n'a pas pu retrouver tout le monde. On a quand même retrouvé certains.
Les CM2 de l'école Einstein ont continué l'enquête. Ils ont retrouvé un parent d'élève de l'époque, l'animateur qui s'occupait de Radio Cartable tout au début. Et ils ont aussi retrouvé Madame Lotroïc, qui est vraiment un des parents de Radio Cartable.
40 ans. Notre petite radio en milieu scolaire, Radio Cartable, la radio des élèves des écoles d'Ivry, va fêter ses 40 ans en février 2024. Et la vie nous joue un tour comme elle peut parfois souvent le faire. Car le 29 septembre, Madame Lotroïc, sa fondatrice, décédait à l'âge de 94 ans. Annie Lotroïc, IEN à Ivry-sur-Seine, de 72 à 85, inspectrice dynamique, pédagogue ouverte aux idées nouvelles, a su s'emparer d'un projet d'atelier radio proposé par des parents d'élèves de l'école Einstein. Nous étions à l'ère des radios libres. Cette IEN, enseignante avant tout, attentive aux difficultés des élèves de milieux défavorisés, a tout de suite compris le potentiel d'un tel outil qui allait permettre de travailler la maîtrise de la langue orale et écrite en donnant la parole pour de vrai à ces enfants qui ne savaient ou avaient peur de l'apprendre. Entreprise difficile, délicate, car il a fallu convaincre la hiérarchie, les parents, motiver les enseignants, accepter de ne pas être toujours dans les clous. Son enthousiasme, ses encouragements et son aide ont eu raison de toutes ces difficultés. Et depuis 40 ans, cet outil pédagogique innovant perdure dans les écoles primaires d'Ivry-sur-Seine.
Madame Lotroïc, pour la fête organisée à l'occasion des 20 ans de Radio Cartable, nous vous avions invité et nous vous avions interviewé. Savoir que Radio Cartable existait toujours et était utilisé par nombre d'enseignants vous a surprise et aussi flattée. Radio Cartable a précieusement conservé cette interview dans ses archives et la diffuse à l'occasion de cet hommage. Oui, Madame Lotroïc, vous avez été une inspectrice importante dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Cet outil a fédéré les écoles et les enseignants de la ville, a fait naître des projets intéressants, a amené les enseignants à parfaire leur formation, surtout sur le plan de la technologie. Il leur a aussi permis de connaître leurs élèves autrement, et de créer des liens pédagogiques différents. En un mot, l'outil Radio Cartable a fait vivre et vibrer enseignants et élèves au cœur de la classe. D'ailleurs, les IEN qui vous ont succédé ont reconnu la valeur de cet outil innovant et ont poursuivi le travail que vous aviez entrepris. C'est la marque des grands novateurs. Et vous avez été une grande inspectrice, Madame Lotroïc, veillant à ce que chaque enseignant puisse donner le meilleur de lui-même au profit des enfants et élèves. Beaucoup d'anciens enseignants qui vous ont connu parlent de vous comme quelqu'un à la fois rigoureux et exigeant, mais qui avait su aussi aider et encourager. Maintenant, l'école, le monde, tout cela a changé, et les pratiques pédagogiques aussi. Radio Cartable existe toujours, mais avec moins d'adeptes. Nous allons fêter ses 40 ans. L'âge de la retraite pour elle? Peut-être. Aidez-nous à faire le pari que non. Merci Madame Lotroïc pour tout ce que vous avez apporté.
Bonjour Madame Lotroïc, voulez-vous nous expliquer à quoi sert Radio Cartable?
Vous savez déjà bien à quoi ça sert. Ce que je pourrais vous expliquer, nous, moi, c'est ce à quoi on avait envie que ça serve quand on s'est dit il faudrait une radio. D'abord on a dit dans l'école Einstein, puis très vite on a dit non. Dans toutes les écoles d'Ivry, on avait effectivement des objectifs. Hein. Alors je peux en dire certains. On avait envie que ce soit d'abord quelque chose qui aident les enfants dans leur travail scolaire. Pas seulement une chose qui serve à être agréable et sympa, et on avait envie que ça puisse les aider. On avait envie que ce soit une façon pour les enfants dans l'école de mieux connaître leur ville, de mieux connaître les habitants de leur ville. On avait aussi envie que les enfants apprennent à mieux savoir s'exprimer en public, et devant un micro, et ça n'est pas, vous savez bien vous aussi, que ça n'est pas toujours si facile.
Je voulais savoir qui a inventé Radio Cartable.
Qui a inventé Radio Cartable? Alors là, je vais essayer d'aller vite aussi. Il y avait eu pour la construction de cette école où nous sommes là, beaucoup, beaucoup de discussions avec des gens très nombreux, de toutes sortes, qui sont venus pendant 2 ans dire à quoi pourrait ressembler un peu l'école de leurs rêves. Puis un jour, cette école a vu le jour, elle est née, elle a été construite. Et là, il y a quelqu'un dans un stage qui avait lieu juste à l'ouverture de l'école, quelqu'un qui a dit, et pourquoi pas une radio dans cette école, dans cette belle école? Et quelqu'un qui a dit, pas longtemps après, et pourquoi pas une radio dans toutes les écoles d'Ivry?
Est-ce que la personne qui vient d'arriver, elle peut se présenter?
Alors, moi, je suis Patricia Bendiaf. À l'époque, je suis parent d'élève. Enfin, j'étais parent d'élève à Einstein. Bon, maintenant, je suis adjointe au maire à la ville d'Ivry, mais ça, c'est autre chose. Mais je suis là en tant qu'ancien parent d'élève. Et j'ai beaucoup participé avec Monique Malvergne et Philippe Colomine. Les deux, d'ailleurs, ont eu chacun un de mes enfants dans leur classe. Donc, j'ai beaucoup participé en tant que parent de la classe, mais en dehors, parce que j'aimais bien cette radio.
Comment Radio Cartable a été construite?
À partir du moment où on a dit « oui, on va faire cette radio dans les écoles d'Ivry », on a constitué un groupe de gens qui se sont mis à réfléchir, qui étaient très, 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 très contents, très enthousiastes. D'abord, on lui a trouvé un nom. Après, on a constitué une association de parents qui a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, on s'est mis à chercher ce qu'il faut pour, quand on se lance dans une affaire comme ça, c'est de l'argent. Hein ? Il faut de l'argent pour avoir un studio. Il faut de l'argent pour le faire marcher, payer des heures d'antenne. Enfin bon. Après, il a fallu qu'on trouve des gens qui nous donnent un petit temps d'antenne. Alors, au début, ça n'a pas été Radio Libertaire comme maintenant. Ça a été une radio du Val-de-Marne qui s'appelait Radio Soleil. Et elle nous a donné 2 heures d'antenne. C'était beaucoup. Et puis, petit à petit, les émissions, toutes les écoles qui souhaitaient participer à Radio Cartable ont commencé à dire « Nous, on aimerait faire une émission drôle. Nous, on aimerait faire une émission où on raconterait des contes. Nous, on aimerait aller interviewer des gens dans la rue sur des sujets qui nous intéressent. » Et là, toutes les idées sont venues et il fallait organiser tous ces temps d'émissions. Ce qui m'a vraiment toujours fait plaisir quand je repense à Radio Cartable, c'est de me dire qu'il y a eu des enfants qui ont eu cette chance, qui se passe dans leur école quelque chose qui n'arrive pas dans toutes les écoles, qui ont fait à l'école un genre de travail qui leur servait tout à fait pour leur progrès dans leur scolarité, mais qui était quand même quelque chose de superbe. Et je suis toujours contente de me rappeler que ça a eu lieu et que ça a duré. Voilà. Mon souvenir à moi, c'est ça.
Merci beaucoup et au revoir.
Alors moi, j'ai fait toute ma scolarité à l'école Maurice Thorez. Ça m'émeut un peu de me retrouver devant ce micro après plus de 30 ans. Le studio s'est bien modernisé. À l'époque, on se réunissait autour d'une grande table en bois, recouverte d'une moquette bleue, très épaisse. Pierre Laborie nous expliquait comment se tenir. Je me souviens qu'il fallait placer 2 doigts entre la bouche et le micro, afin d'avoir la bonne distance pour parler. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, on a des micros un peu plus sensibles. Pierre se tenait derrière la vitre de la régie, juste là, avec son doigt en l'air, prêt à nous indiquer le feu vert. Il nous guidait, nous rassurait, nous félicitait aussi, et puis parfois nous grondait. Un souvenir très drôle, il nous enregistrait sur un magnétophone à bande, un Revox. Un jour, il nous a fait écouter une petite bande magnétique. Il avait scotché bout à bout tous les passages enregistrés avec nos erreurs, nos hésitations et nos fous rires. C'était une belle façon d'apprendre de nos erreurs, mais aussi de rire de nous-mêmes.
Alors, Pierre Laborie, il a été l'un des pionniers de Radio Cartable, directeur de l'école Makarenko. Quand il a pris sa retraite en 1980, il a consacré une bonne partie de son temps à Radio Cartable, de 82 à 98, à une année près. Jusqu'en 92, il a été une sorte d'enseignant ressource en retraite, non payé, volontaire, bénévole, tant qu'il n'y a pas eu d'enseignant missionné sur la radio. Il a participé à l'élaboration du projet École ouverte d'Einstein en 82, en tant, je crois, de membre du GFEN, même ce qui n'était peut-être pas président du GFEN, qui était le groupe qui est le groupe français d'éducation nouvelle. Il faisait de A à Z les émissions à partir des produits bruts qu'on lui remettait. On arrivait avec une petite cassette audio, hein, et puis soit il se débrouillait tout seul, soit on venait travailler avec lui. Hein. les mercredis, et donc de la petite cassette, on le remettait sur le Revox, et puis c'est là que, comme disait Sonia, on coupait, on collait. J'ai travaillé avec lui pas mal sur les histoires sans parole. Alors là, écoutez, les histoires sans parole, je les regrette. Je dis à Gaël, il faut les retrouver. C'était un truc tout simple à faire. La classe qui prenait l'histoire sans parole, elle écrivait un scénario rapide. Et à partir de ce scénario, les élèves cherchaient des bruitages qui étaient liés à l'histoire. On diffusait toute cette série de bruitages. Les autres classes qui entendaient donc les bruitages, c'est eux qui inventaient l'histoire et qui l'envoyaient à Radio Cartable. Et la semaine d'après, on lisait l'histoire inventée par les mots. Alors ça, c'était vraiment super. Et puis en 89-90, je travaillais avec lui un fort moment sur le conte radiophonique, qui était d'abord radiophonique, le danseur chinois, le dragon, qui a été inventé en collaboration avec les écoles Torres A, Torres B et Makarenko, et qui a donné un livre aux éditions L'Armatan. Alors là, j'en parle pas parce que c'était vraiment un fort moment. Voilà. Donc, ce danseur chinois, c'était quand même très enseignant, 3 écoles différentes, plus de 200 élèves, des conteurs, des écrivains, des illustrateurs, et au milieu de tout ça, Pierre Laborie, avec d'autres personnes, bien sûr, hein, notamment Tang, je me souviens, qui a traduit, parce que c'est un roman bilingue, hein, chinois et français. Merci à Tang. Et puis Edith Pia aussi, qui était vraiment maîtresse d'œuvre là-dedans. Voilà. Sans sa ténacité, sans son savoir-faire radiophonique, Radio Cartable n'existerait plus. Je lance d'ailleurs un appel à son fils, Pascal, qui est le compositeur de notre célèbre générique. S'il nous entend, ou si quelqu'un le côtoie, qu'il nous contacte afin d'être parmi nous pour la fête des 40 ans.
C'est au tour de Gaëlle, une ex-élève de CP de l'école Solomon en 1988, qui habite aujourd'hui en Bretagne. Elle se souvient.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bon, ben ça y est, là, avec ce générique, je crois qu'on y est. Hein. Gaëlle... Tu nous ramènes dans le passé un peu, là, de qu'est-ce que c'était que cette radio, Radio Cartable ?
Alors, Radio Cartable, c'est une radio qui a fêté ses, ou qui va fêter ses 40 ans et qui est organisée et pilotée par les écoles donc d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Et moi, j'étais élève dans une des écoles à Jacques-Solomon. Et ma première expérience radio, d'enregistrement en tout cas, c'était en CP. Et notre maîtresse, notre maîtresse qui s'appelait Madame Chouet, je crois, nous avait fait raconter, donc mettre en voix le film L'Ours de Jean-Jacques Haneau. Et donc, on avait fait ça en classe avec des enregistreurs cassettes à l'époque, je crois. Et donc, c'était vraiment, voilà, elle, je crois, débutait dans la radio. Ma mère l'avait un peu poussée, parce que c'était une de ses collègues, ma mère l'avait un peu poussée pour qu'on fasse de la radio, donc elle s'était lancée tout petit, avec des enregistreurs en classe. Et par contre, en CE2, donc, cette fois, j'avais expérimenté l'écriture et l'enregistrement d'un conte, et le conte s'écrivait d'épisode en épisode, de classe en classe, mais finalement, les classes... n'écrivait pas tous les épisodes, mais chaque classe prenait en charge la suite de l'histoire. Et là, c'était retour dans le temps, Robin et Hélène, deux personnages. Et moi, je crois que j'avais mis en voix Hélène. Et là, par contre, on avait été en studio, donc c'était à l'école Maurice Thorez à Ivry. Et donc là, c'était vraiment le studio avec la lumière rouge, on ne parle pas quand l'autre parle, etc. Et c'était vraiment une expérience marquante, enfin pour moi. Et je suis convaincue que ces expériences radio m'ont beaucoup aidée ensuite. C'est-à-dire que la prise de parole ne m'a jamais posé problème, parler devant un public ne m'a jamais gênée. Et je suis convaincue que c'est la radio toute petite qui m'a facilité la tâche.
La lumière rouge est encore un peu là, allumée quelque
ouais,
part.
Oui, un peu, hein. Et elle manque d'ailleurs dans le studio.
Bruno, toi aussi tu as bien connu Pierre.
Oui.
Explique-moi comment.
Tout a commencé quand j'ai poussé cette porte et que je cherchais un emploi, un contrat pour travailler dans le son. Car je faisais déjà de la musique et que ça m'a toujours intéressé. Tout l'aspect technique. Je me suis rappelé qu'il y avait une radio dans mon école. Et je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, j'ai poussé cette porte et je suis tombé sur ce grand monsieur Pierre Laborie. Tout de suite, il y a effectivement ce magnéto énorme à l'entrée qui prenait beaucoup de place. Cette grande table justement avec les lumières. Tout qui résonnait, qui était très mal insonorisé comme maintenant, mais ça marche très bien. Pierre m'a donné ma chance en me disant « Ok, on fait un contrat, ce qu'on appelait à l'époque un contrat emploi solidarité. » Donc le matin, j'étais ici et l'après-midi, j'étais à l'école. Donc ça a duré un peu plus d'un an, puisque Pierre voulait que je reste un peu plus. Parce que des fois, on faisait d'autres enregistrements ou des fois, il y avait des choses à revoir pour certaines émissions à recouper. Quand il y avait des gens comme Yolande qui arrivaient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles et qu'il fallait tout trier. J'ai appris à monter des émissions, à travailler avec les élèves. Et du coup, qui n'étaient même plus des élèves, hein, qui étaient vraiment des journalistes, qui faisaient vraiment leur truc. Ils étaient vraiment passionnés. Et Pierre, au-dessus de mon épaule, toujours au cas où il y a le petit bouton qui n'est pas assez poussé, ou voilà, toujours derrière à me dire il faut faire comme ça, c'était génial. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer, quoi.
Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ?
Je travaille toujours dans le son, donc je suis sonorisateur à la ville. Mm-hmm. Et puis sonorisateur en règle générale, régisseur général aussi en théâtre ou sur plateau, musique, concert, ça peut arriver. Et DJ aussi depuis toujours. Donc j'ai jamais réellement arrêté et c'est mon métier et je pense que ça le restera longtemps.
D'ailleurs, je pourrais ajouter que le Cartable a accueilli, a aidé pas mal de jeunes en recherche d'emploi, hein, ça a été donc les CES, ça a été ensuite les contrats aidés, les emplois jeunes. Hein, donc il y a eu Loïc, c'était le fils de Catherine Chouette, qu'on aurait pu citer aussi dans les nounous qui aidaient à grandir. Il y a eu Anne aussi, il y a eu Samuel, je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais j'espère qu'on leur a mis peut-être le pied à l'étrier, comme toi, sur des...
Ah ben moi, en tout cas, ça m'a bien, ça m'a bien, bien, bien aidé, ce parcours qui était... Au début, c'était pas gagné parce que c'était le premier contrat emploi solidarité à Ivry. Et à l'époque, je crois que ça n'a pas duré énormément de temps.
Non, en 90, pris en charge par l'État, totalement.
Et c'est pas un truc qui a duré.
Non, non.
Et par contre, moi, j'étais vraiment, j'étais vraiment très content de l'avoir fait. Et c'est ce qui m'a donné l'envie. Et c'est vrai que Pierre là-dessus, c'était génial. Bosser avec lui, c'était génial.
C'était un enseignant avant tout, Pierre Laborie.
Oui.
Jusqu'au bout des ongles.
Puis très pro, très très pro. Ça, on apprend aussi ce côté-là. C'est le côté, on peut être voilà, mais très très pro. Et ça met tout de suite, quand on ferme la porte et qu'on dit chute, ça met tout de suite une autre ambiance. Et là, on se sent impliqué dans quelque chose, vraiment. Ils venaient ici, les élèves, pour enregistrer avec ce qu'ils avaient travaillé de la semaine, Et on les enregistrait, et après, on faisait le montage sur le Revox. Voilà.
Tout à fait. Les enseignants se déplaçaient, oui.
Oui. C'est arrivé qu'on fasse des interviews, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au magnéto en extérieur, mm-hmm. où on allait directement sur le terrain enregistrer les enfants par rapport à une situation. Une sorte de Jeux Olympiques, de mini-Jeux Olympiques, il y avait un truc comme ça, et on avait fait tout un reportage là-dessus. Enfin voilà, c'est des souvenirs après, c'est... Et les élèves pris sur le vif en fin de course.
Micro-trottoir,
c'est ça. Ouais.
Et vous, Madame Pasquier, que pouvez-vous nous dire sur les débuts de Radio Cartable ?
Alors moi, c'est pas vraiment les débuts. C'est Madame Lotroïc qui m'a embauchée assez vivement, puisque c'était à ce moment-là, on amenait une personne comme ça qui cherchait du travail et hop, on l'envoyait dans la matinée dans une classe. ça m'est arrivé. Madame Lotroïc, je me souviens d'une personne rayonnante, très chaleureuse, mais quand même pressée par tout le travail qu'elle avait à faire. Et je suis revenue, donc j'ai été enseignante en 76, mais je suis revenue sur Ivry-sur-Seine qu'à partir des années 80 et un petit peu après. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai tout de suite aimé Radio Cartable parce que c'était pour de vrai et que les enfants étaient heureux, joyeux de faire quelque chose qui était très contraignant, très exigeant, mais que pour de vrai, ça change tout. Quand on dit les cahiers au feu, les maîtresses au milieu, c'est parce que il y a des fois les cahiers, ben, c'est pas pour de vrai. Et quand c'est pour de vrai, les enfants ont une autre perception de ce qui se passe à l'école. Donc moi j'ai fait beaucoup d'émissions de radio et j'ai même eu un atelier à l'école Solomon. J'ai été longtemps à l'école Solomon. À l'école Solomon, on a pu avoir à un moment donné des sortes d'heures supplémentaires pour animer des ateliers pédagogiques en dehors des temps scolaires à proprement parler. Donc pendant plusieurs années, de 4h30 à 6h sur le temps de l'étude, j'ai animé un atelier qui était en direction des CM1, CE2, CM1, CM2.
Là, c'est ce que tu évoques, c'était en 98, voilà. 99, 2000. Donc, on est hors de la première décennie.
Ouais.
Bonjour, Élise. On se dit-tu ?
Ben oui, bonjour.
On a un peu l'habitude. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus largement que ton prénom, donc Élise, dire quand tu as fait la rencontre de Radio Cartable, où, avec qui et dans quelles circonstances, c'est-à-dire où est-ce que tu étais et voilà.
Je m'appelle Élise, donc j'ai 36 ans et ma première rencontre avec Radio Cartable, je devais avoir 6 ou 7 ans, c'est quand je suis entrée à l'école primaire Jacques Solomon à Ivry-sur-Seine.
Donc en quelle année ?
Il y a 30 ans, 1993.
Waouh. Oui.
Et bien l'école que je fréquentais, donc l'école Jacques Solomon, elle faisait Radio Cartable, donc était menée par Monsieur Laborie, donc toi, Madame Pasquier,
oui.
et du coup d'une autre école, Philippe Colomine, qui était instituteur à la colle Albert Einstein, voilà justement.
Est-ce que tu sais que nous allons fêter les 40 ans de Radio Cartable cette année ?
Oui, je le sais. Je le sais parce qu'on m'a dit, et c'est vrai que ça fait tout drôle parce que c'est une belle aventure et je suis très très contente de me dire que cette expérience que j'ai eue quand j'étais petite, bah aujourd'hui c'est aussi accessible à ma fille qui fréquente aussi une école à Ivry.
Est-ce que tu peux me dire, pour ta fille, on va voir, est-ce que tu pourrais me dire quel genre d'émission tu as faite, si tu t'en souviens, quelles sont celles qui sont marquantes, ou quelques petits détails sur l'une d'entre elles en particulier ?
Alors, je me souviens que, je crois, la première émission de Radio Cartable que j'avais faite, c'était quand j'étais en CE1 avec mon institutrice, Madame Poux, qui avait fait un projet de classe, comme on était, bon, des jeunes enfants en train d'apprendre à lire. On avait étudié un livre qui s'appelait « Garou-garou, le loup qui a peur de tout ». Et chaque enfant devait répéter une phrase, ou en tout cas la lire et l'apprendre, et la dire avec le ton. Et du coup, on était enregistrés, donc par petits groupes, je crois, de 5 ou 6. On allait dans le studio qui se trouvait au deuxième étage de l'école et on était autour de cette table. Alors pour nous c'était assez impressionnant parce que il fallait faire attention à pas faire de bruit parasite, donc on nous disait bien de mettre les deux pieds à plat par terre, les mains sur les cuisses et de dire notre phrase. Ça a l'air de rien, mais c'est pas évident quand on a 7 ans. Et c'était une expérience assez impressionnante après de s'écouter à la radio. C'était quelque chose. Et
est-ce que tes parents ou tes grands-parents t'ont entendu à la radio? Est-ce que tu peux...
Je crois que ma mère m'a écoutée à la radio.
Pas d'elle.
Je crois que mes grands-parents ont pu m'écouter, oui, aussi. Et mon papa aussi. Oui. Et c'était quelque chose de pouvoir dire à son entourage, moi, je passe à la radio. C'était quelque chose, oui.
Est-ce que tu as d'autres émissions comme ça qui ont été marquantes pour
toi ? Il y en avait pas mal. Il y en avait une que j'aimais beaucoup, c'était le jeu du dictionnaire. Donc, on cherchait dans le dictionnaire les mots les plus improbables et il fallait en faire deviner le sens. Alors, je me souviens encore du mot « uranoscope ». Qui m'avait beaucoup fait rire. Et je vous laisserai regarder dans le dictionnaire ce que c'est. Mais
c'est un petit peu un jeu.
Histoire de remettre au goût du jour nos jeux de radio quand on était enfant. Donc, et c'est vrai que c'était vraiment très, très drôle. Je crois que je me souviens en CM1, c'est quelque chose que j'avais oublié. Mais il me semble que notre institutrice, Madame Philippe, nous avait demandé de faire des exposés. Alors, c'était sur les animaux, chacun son animal. Et il me semble qu'il y avait une personne qui avait pu enregistrer son exposé à la radio.
Wow.
Et qui était passée, effectivement, à la radio. Alors, c'était pas moi, mais je me souviens que c'était quand même vachement classe.
Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, toi, sur le plan personnel, à ce moment-là, quand tu étais encore enfant et scolarisée?
Alors, en tant qu'enfant... Déjà, ça valorise le travail qu'on fait en classe, parce que apprendre à lire pour apprendre à lire, c'est une chose. Moi, j'adore lire aujourd'hui, mais apprendre à lire, lire à la radio et se dire qu'on va le faire devant tout le monde, n'importe qui écoute, c'est extraordinaire pour un enfant. Comme en plus, je reviens sur le travail de CE1, c'était un travail de groupe, donc c'était un travail qu'on faisait tous ensemble. C'était un très, très beau projet. Et j'en ai encore des souvenirs très, très vifs et très joyeux. Je me souviens encore des autres ateliers qui étaient très drôles. Alors, certes, on travaillait, on faisait attention, il y avait une certaine discipline du studio d'enregistrement, mais c'était des moments où on rigolait énormément, c'était des moments très... ça positivait vraiment l'expérience d'élèves. Et c'était aussi une façon aussi de s'approprier le fait d'aller chercher le sens des mots dans un dictionnaire pour revenir au jeu du dictionnaire, de se dire qu'on valorisait le travail qu'on faisait en classe puisque c'était digne de passer à la radio. Et j'adorais aussi voir comment ça marchait justement un studio d'enregistrement, Monsieur Laborie, et puis toi vous nous montriez comment est-ce qu'on fait le montage. Alors à l'époque c'était sur bande, donc je me souviens encore l'appareil où on découpait les bandes en biseau avec les petits scotch spéciaux pour raccorder les bandes et éliminer justement les petits bruits parasites, les e, les hésitations, les blancs. C'était, je me souviens d'un projet auquel j'avais pas participé, mais qui s'appelait le Roi des Montées, qui avait été fait avec une autre école et un musicien qui s'appelle Steve Waring et qui avait fait un album. Et il me semble qu'on peut encore avoir cet album qui s'appelait Le Roi des Montées, qui était très très rigolo.
C'était avec quel instituteur, tu te souviens?
Il me semble que c'était avec Philippe Colomine. Oui. Et je me souviens qu'on a eu cet album à la maison, qu'on l'écoutait très régulièrement. C'était très drôle. Mm-hmm. Et c'était des enfants qui avaient enregistré avec un musicien.
Est-ce que tu te souviens de cette classe opéra
Oui, mais d'ailleurs, il y avait des élèves de Solomon, puisque je me souviens d'un camarade de classe qui s'appelait Jérémy et qui nous racontait comment il faisait. Parce qu'il faisait des échauffements de la bouche pour avant de chanter. Si, je me souviens, c'était très, c'était encore une fois quelque chose de très joyeux de la vie scolaire, loin de l'histoire où je veux pas y aller à l'école. Au contraire, là, on y allait plutôt avec joie, avec quelque chose de très très positif.
Et est-ce qu'aujourd'hui ça t'a apporté quelque chose pour ta vie d'aujourd'hui?
Oui, ça m'a vraiment apporté quelque chose parce que bon, pour rien cacher, aujourd'hui je suis infirmière et j'ai un rôle d'éducation thérapeutique très très enfin très important dans mon service. Mmh. Et c'est vrai que cette histoire de parler à la radio en se faisant comprendre, mmh, ça c'était vraiment important. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très important dans mon travail. Donc oui, je tire encore des choses. Le fait de parler en public, le fait de se dire que on peut transmettre des choses par la parole. Et que même si on est enfant, notre parole a de la valeur, digne d'être à la radio. C'est quelque chose que je garde au cœur.
Bon, ben merci beaucoup, Élise. Bonne continuation à toi. J'espère qu'on te verra pour la fête des 40 ans de Radio Cartable.
Ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà. Donc ça, c'était Élise qui était dans cet atelier hors temps scolaire. Et cela dit, quand j'ai été enseignante ressource, j'avais un mi-temps, c'est-à-dire pendant la moitié de mon temps scolaire, je pouvais aller aider tous les enseignants et les élèves, les enfants, qui voulaient faire de la radio. C'est-à-dire, des fois, je me déplaçais. Je me souviens d'avoir interviewé des petits de maternelle de l'école Makarenko. Alors je prenais un petit groupe et puis sur un projet, soit préparé par leur maîtresse ou leur maître, soit à mon initiative, on faisait des petits enregistrements où le plus souvent, c'était les maîtres et les maîtresses qui avaient travaillé a priori dans leur classe et on venait en soutien, soit pour faire l'enregistrement, soit pour dégager des élèves et leur permettre de faire le travail. Et puis, il y avait le travail plus technique après, effectivement, avec les petits bouts de scotch, comme a dit Élise, avec Pierre Laborie ou Philippe Colomines. Et à l'initiative de Philippe Colomines, qui a quand même été un grand, grand instituteur qui a porté énormément, qui était sur l'école Einstein, il a initié un projet, Abdoulaye, qui a eu quand même un retentissement, j'ose dire, international, puisqu'il a été ponctué par le deuxième prix international en langue française d'action de prévention. Ce projet Abdoulaye, c'était ceci. La classe de Philippe avait commencé une rédaction. C'était un enfant, Abdoulaye, qui vient d'un pays étranger et qui aboutit dans une école qui ressemble étrangement à l'école Einstein, mais elle s'appelle Picasso. Et il a plein de problèmes, des problèmes d'enfants. La première émission se terminait par « Comment être aidé ? Où trouver de l'aide ?» Et les classes qui écoutaient ont eu pour mission, de la même façon qu'on fait les livres dont vous êtes le héros, de trouver une solution pour Abdoulaye et de continuer un texte. Donc comme il y avait plusieurs écoles, il y a eu 18 écoles qui ont participé tout au long de l'année, dont des CM1, des CM2, un PERF, et chaque classe proposer des solutions et continuer un texte. Et le texte se terminait par une autre interrogation en mettant en scène d'autres enfants. Il y avait une petite fille, Anane, et chaque enfant avait son problème. Il y en avait un qui était un enfant malheureux à l'école et peut-être aussi à la maison, où trouver de l'aide. Il y en a un qui était rejeté, peut-être un petit peu harcelé, où trouver de l'aide. Ces émissions ont constitué un grand feuilleton radiophonique relayé dans toutes les écoles, selon la volonté vraiment de Madame Lotroïc. Et à la fin, on en a fait un livre, un petit livre qui s'appelle Abdoulaye, qui a été illustré par les enfants aussi.
Donc, Abdoulaye, mon ami.
Abdoulaye, mon ami. Toute cette année a été soutenue aussi par les médecins scolaires, les psychologues scolaires qui intervenaient et qui pouvaient recevoir les enfants en petits groupes ou même individuellement si l'un d'entre eux avait justement l'envie de dire quelque chose.
Et on avait travaillé, qu'est-ce que ça voulait dire, écrire ensemble.
Oui.
Et c'était difficile pour des enfants. Qu'est-ce que c'est que écrire ensemble? Donc on était passé par le jeu théâtralisé d'abord. Et après, les enfants transcrivaient ce qu'ils avaient joué. Donc il y avait le départ. Ouais. Et après, c'était forcément 4 classes, ouais, qui proposaient. Et un nouveau 4 classes. Donc le livre, c'est un livre comme les livres dont vous êtes le héros. En fait, ça fait beaucoup d'histoires.
Ouais.
Parce que je trouve que cette émission rend un bel hommage aux parents de Radio Cartable, hein, tant de rappellations données par les élèves qui ont mené les interviews en 2009. Moi, j'ai un autre bon souvenir de Radio Cartable, c'est le personnage mystérieux qu'on écoutait régulièrement. En fait, c'était des énigmes.
En direct.
Bien sûr. Des énigmes pour nous faire deviner un mot qui pouvait être un personnage célèbre, un animal, un événement ou même un objet. Dès que la classe pensait avoir trouvé la réponse, on était 2-3 à être désignés et on avait le droit de se ruer dans les couloirs et dans les escaliers pour se rendre au bureau du directeur, monsieur Régis Recher. De là, on prenait son téléphone fixe, on passait un coup de fil au studio et donc en direct, on avait au bout du fil un autre élève, on donnait notre réponse. Et alors là, si on avait gagné, c'était la fête dans le bureau du directeur, on exultait, on criait et puis quand ça n'avait pas lieu, alors soit on perdait, mais le pire, c'était d'arriver dans le bureau du directeur et d'entendre, parce que le directeur, bien sûr, écoutait chaque semaine Radio Cartable, et c'était d'entendre qu'une autre école avait pu appeler avant nous et d'avoir donné la même réponse qui était la bonne réponse. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, il n'y aurait plus de problème parce qu'on aurait le téléphone portable dans la classe.
Que vous avez bien écouté ce qu'ont dit les invités.
Mais oui, bien sûr.
Eh bien, c'est génial! On a retrouvé la cassette de cette émission!
Ouais, on peut l'écouter?
On n'a pas beaucoup de temps, mais on va écouter quand même un petit passage. C'était en 1986.
Soleil 92.5.
Nous allons tout de même vous dire bonjour et nous présenter.
Ici, dans le studio, il y a Aline, Michael,
Leïla,
moi je suis la responsable du téléphone.
Sunline, responsable du cadeau.
Vincent, Ibrahima. Mais n'oublions pas Pierre que nous remercions pour son aide à la technique.
Et Philippe, notre maître.
Un petit bonjour au reste de notre classe, car ce sont eux qui ont enregistré tous les indices.
Maintenant, nous allons vous donner les règles du jeu. Car si nous avons de nouveaux auditeurs, il faut qu'ils participent. Alors Michael, nous t'écoutons.
Le but du jeu et de trouver notre personnage mystérieux en écoutant nos indices. C'est peut-être un animal, une chose, un homme célèbre, etc.
Dès que vous aurez trouvé, appelez-nous au 46 77 81 10.
Et le cadeau, Sunil, dit à nos auditeurs ce qu'ils vont gagner.
J'aimerais bien être à votre place, car aujourd'hui, nous vous offrons un filet garni de gâteaux et de bonbons.
Ne perdons pas plus de temps. Voici notre deuxième indice.
Allez Pierre, envoie-nous s'il te plaît l'abécédaire.
A comme Agami. B comme Beaupré. C comme Cubain. D comme Détroit.
E comme Élan.
Vous n'avez toujours pas trouvé? Dépêchez-vous d'appeler car je vois des yeux gourmands fixés sur ces bonnes choses. Je rappelle que tout le monde peut téléphoner. Les enfants... Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Comment t'appelles-tu?
Karim.
D'où appelles-tu?
De l'école Maurice Thorez.
Quelle est ta réponse?
L'alphabet.
Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça?
Vous avez dit A, B, C, D, alors ça nous fait penser à l'alphabet.
Eh bien, écoute, Karim.
Oui?
Je regarde mes camarades, mais je ne crois pas que tu aies trouvé la bonne réponse.
Ah.
Mais continue à nous écouter et rappelle-nous. Au revoir.
Au revoir. Yolande ?
Eh oui, parce que cet extrait-là que vous venez d'entendre, il appartient aux archives de la Relais Cartable. Parmi tant d'autres, en 40 ans d'émission, on a accumulé un sacré stock de documents sonores.
En gros,
631 cassettes audio. Les jeunes élèves ne savent même pas ce que c'est. 156 bandes magnétiques.
Mais ça encore moins.
Des petites, des moyennes, des bonnes, des grandes, ils ne savent sûrement pas non plus ce que c'est. 510 CD. Ça, ils connaissent encore, je pense. Hein. Ce qui fait la louche, hein. 1297 supports. Et j'ai peut-être pas tout totalisé. Ça fait quand même un sacré stock. Ces documents sonores ont été répertoriés et confiés aux archives municipales. C'est en cours de traitement. Beaucoup de travail d'archiviste qui aboutira à la mise à disposition aux Ivriens de l'ensemble de nos 40 ans d'émission.
Alors, Yolande me demande de commenter une phrase de Jean-Jacques lors d'une interview pour les 25 ans. Tant qu'il y aura des enfants pour poser des questions, Radio Cartable existera. Je n'en suis pas très sûre, moi, en ce moment. D'ailleurs, vous n'avez entendu pratiquement que des adultes qui intervenaient. Avec nous, il n'y avait pas d'enfants. Il y avait des enregistrements d'enfants, mais pas d'enfants. Et bien sûr, les enfants savent poser des questions, mais ils ont besoin d'être guidés et surtout, ils ont besoin qu'on suscite leur curiosité. Et Radio Cartable ne peut exister que si des enseignants prennent en charge cet outil innovant et tellement riche. Voilà Jean-Jacques, tu avais raison, mais pas sûr que ça continue. On espère.
Bon, ben on vous a présenté l'histoire de la première décennie de Radio Cartable, hein, donc je vous le rappelle, née en 1984, qui a fêté ses 10 ans en 1994, ses 20 ans en 2004, ses 25 ans en 2009, avec une grande fête qui a rassemblé des Ivriens, ses 30 ans en 2014, une grande, grande fête à l'espace Gérard Philippe. Eh bien, à bientôt pour fêter tous ensemble ses 40 ans à l'espace Gérard Philippe, c'est sûr, en 2024. La date sera à préciser.
Ben, on espère. Le projet, ce serait de faire une petite balade radiophonique pour faire écouter le travail des élèves. Donc là, cette année, il y a un travail qui est fait sur les sons des quartiers. Donc 4 UPE2A participent et on espère avoir un financement pour pouvoir faire participer 4 autres classes à ce projet. Et les archives de Radio Cartable seront en partie exploitées dans ce projet, puisque l'idée, c'est de relier les lieux d'Ivry à des interviews ou des petites émissions qui ont été faites en lien avec ces lieux. Donc on vous donne rendez-vous, classe et famille, pour se retrouver autour de cet outil. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été tous là.
Et puis un merci aussi aux enseignants et aux élèves de ces 40 dernières années d'avoir produit... Merci à nos invités autour de la table d'avoir bien pu se réunir dans ce studio mythique. Puis merci à ceux qui continuent de faire vivre Radio Cartable.
Oui, bravo! Vive Radio Cartable!
Happy birthday!
Eh oui, Tanta Guri!
Je lui dis de me ramener des Celtiques au prix marqué afin de fumer taxé. Un peu de sucre, un peu de farine pour faire la pâte très fine. Raviolis, spaghettis, gnocchis et capelletti. Quand ma femme rentre du marché, elle me sort tous ses paquets. Un cigare de Mexico gros comme un cachalot. Un hibou nommé Tom Black, neuf de l'île de Pâques. Du shampoing pour les moins, du suspense et du linge à poisse. Alors elle me dit, mon petit chéri, v'là ta part de poésie. Dans mon panier, y a des idées que t'as plus qu'à ramasser. Des oranges au canard, de l'étrange au bizarre. Bref, tout ce qu'il y a de chouette. Prends ta plume, mon Pierrot, que j'allume ton flambeau à chansonnette. Quand ma femme part chez le coiffeur, je lui dis, fais-moi une fleur. Ramène-moi du sentibon, du bat, du pas trop con. De celui qui se fait se retourner, les snobs et les émousmés. Du carven, du patou, de l'obscène et du passe-partout. Quand ma femme revient du coiffeur, elle me dit, voilà mon cœur. De l'extrait de fleurs de Marie, tout ce qu'il y a de plus garanti. Des crayons pour faire les yeux, aux larmes du pot au feu. De l'Ardenne, du rubis, du Ruchten et du tout ce qui s'essuie. Alors elle me dit, mon petit chéri, v'là ta part de pâtisserie. patchouli dans ma forêt pour te parfumer ta cape vaporisée. Du genièvre à tes lèvres, du chien dent pour tes dents, bref, tout ce qu'il y a de nat. Naturel, naturliche, au javel pour les miches, c'est dit, pour boîte. Et quand ma femme part au marché, je lui dis de me ramener un pyjama genre Vichy pour faire mon petit persil. Des voyages en carte postale pour les cinglés de la malle. Tahiti, Côte d'Asie, Malaisie, Malassie aussi. Quand ma femme rentre du marché, elle me sort tous ses paquets. La liquette du père Adam à se foutre rêve sous la dent. Un chouette kaléidoscope.
Bonjour, vous êtes bien sur 89.4 FM, Radio Libertaire. Et je suis désolée de vous annoncer qu'en raison d'un problème technique, l'émission Bibliomanie ne pourra pas être diffusée comme prévu aujourd'hui. Donc l'interview de Jessica Nelson sera diffusée en janvier, probablement le 12 janvier. Avec mes excuses...
Note, Gourbi, un Giotto, un Coron, un Pablo et un Picasso. Quand ma femme part au shopping, elle me chope toutes nos sterling. Les paluches barrées d'un chèque, v'là que se barrent nos copecs. Nos dollars dans le machin chouette, nos florins chez Macbeth. Othello, mon coco, le roi lire, chez Shakespeare à dire. Alors elle me dit, t'as pas fini d'écrire des i. Dit aussi, je connais Isou et les Azou et l'écriture et tout. Au pays de Descartes, les conneries se foutent en carte ou ok, Conti. T'es barré pour y aller à la Cacadémie, ok, mon petit.
Radio Libertaire 89.4.
Fils de Maya, de Harlem ou de Cuba, frappe le tambour, dansez, les dieux invitent vos corps. Dans leur désespoir, vos pères noirs transportés aux Amériques déjà nous honoraient, nous les pintades. Liés à l'eau, à la lune, à la déesse de l'amour et des rivières noires en fécondité, blanc de mort, mon plumage est pointillé. Fils de Baïa, de Harlem, de Cuba, frappe les tambours,